en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
L'historien René Raymond est mort le 14 avril 2007. Il était né le 30 septembre 1918 à Lons-le-Saunier et sera, après une longue carrière universitaire, élu à l'Académie française le 18 juin 1998 au fauteuil de François Furet. René Raymond était historien, politologue, professeur, président d'innombrables commissions, maintes fois décoré, membre d'un grand nombre d'institutions, et il semble être effectivement le prototype du grand professeur. Son parcours est relativement classique, école normale, agrégation d'histoire en 1942, doctoresse lettres en 1952, il enseigne à Sciences Po et en 1965 devient professeur à Paris 10 Nanterre, puis président de 71 à 76 de cette université. Tout le monde connaît René Raymond pour l'avoir vu au moins dans les médias, où il a commenté pendant des années le soir des élections, lesdites élections. Et il a même participé en 1978 à la création de l'Institut d'histoire du temps présent et en sera président pendant 20 ans. Les principaux ouvrages de René Raymond sont, pour le dire rapidement, Les droits en France en 1954, L'introduction à l'histoire de notre temps en 1974, en trois volumes, qui sera un classique pour tous ceux qui ont fréquenté Sciences Po. Pour l'histoire religieuse, notons l'anticléricalisme en France 1976 et l'histoire de la France religieuse en co-direction qui a été publiée en 1992. Et puis, viendra d'autres livres. Donc, sur René Raymond, nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir Jean-Pierre Rioux.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes historien, historien du temps présent. Vous avez participé à l'aventure de l'Institut d'histoire du temps présent avec René Raymond et François Bédarida. En 1978, vous lancez le mensuel L'Histoire avec Michel Vinocq. En 2004, vous lancez la revue Le XXe siècle. Vous avez écrit un certain nombre de livres qui sont devenus depuis lors des classiques. Je pense en particulier à L'Histoire culturelle de la France que vous avez co-dirigé et vous avez écrit la moitié du quatrième tome. La Quatrième République, La Révolution industrielle. Et dernièrement, vous venez de faire paraître, en 2005, une biographie de Jean Jaurès et une réflexion d'actualité sur la démission française à l'égard de son histoire, le livre s'appelant « La France perd la mémoire », publié en 2006 chez Perrin. Et sans oublier un dernier livre, et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir de façon un peu plus approfondie, « Le dictionnaire de la France coloniale » en 2007, qui vient de paraître chez Flammarion. Alors, vous semblez plus que d'autres à même d'évoquer la figure de René Raymond, la figure et son apport historique. Vous avez, comme lui, avec un écart de temps, vous avez comme lui grandi aux côtés de l'Action française. Comme lui, ou à sa suite, vous nous le direz, vous êtes toujours intéressé au temps présent. Vous l'avez croisé dans différentes circonstances et en particulier à Nanterre. Et je vous cite, dans un entretien, vous avez dit « Puis je devins assistant à Nanterre après avoir franchi mes 68 alors que j'étais professeur de lycée à Neuilly. Une fois enseignant à Nanterre, j'ai fait intellectuellement tout ce que je voulais faire. Il y avait des gens exceptionnels comme René Raymond, entouré de Jean-Jacques Becker, Serge Bernstein, Étienne Fouillou, Jean-François Cirinelli et Jean-Noël Jeannet, dont vous l'avez croisé à différentes occasions. Et vous semblez, si j'ai bien compris, vous semblez faire partie de ce qu'on appelle ou de ce que Jean-François Cirinelli a appelé la Raymondie, à savoir effectivement un cénacle d'individus qui ont été dans la mouvance de René Raymond, avec des politologues comme Alain Lancelot, comme Jean-Luc Parodi, et des historiens comme vous-même, comme Jean-Pierre Azéma, comme Jean-Jacques Becker, comme Serge Bernstein, comme Pierre Miliza, comme Antoine Pro, comme Michel Vinocq. Voilà. Et vous avez participé, le 12 octobre dernier, à un colloque sur René Raymond intitulé « Un itinéraire engagé » où votre contribution portait sur, je cite, « deux ou trois choses dont nous n'avons jamais parlé ». Et bien, justement, ça va être l'occasion d'en parler et nous voudrions, avec vous, aujourd'hui, faire un peu un portrait à la fois intellectuel, personnel, d'historien à historien de René Raymond et de son apport dans la science historique et dans le paysage intellectuel français sur quasiment un demi-siècle. Première chose, comment était-il, à titre personnel, quelles étaient ses qualités, quels étaient ses défauts, et comment était-il reçu dans la communauté des historiens ?
Ah, vaste sujet.
Alors, commençons par ses qualités personnelles.
Peut-être un peu compliqué de donner tout de suite des jugements de valeur, parce que René Raymond, c'était un peu tout sauf cela, en ce sens que c'était quelqu'un qui écoutait beaucoup, accompagnait beaucoup, disait relativement peu, mais vous laissez, et c'est, je dirais, sa très grande force, laisser en chacun s'exprimer la plus grande liberté dont il était porteur, finalement. Et ça, c'est quelque chose que tous ceux qui ont travaillé avec lui ont immensément apprécié. C'était tout sauf, je dirais, un patron de thèse tatillon, c'était tout sauf un président autoritaire, c'était une fermeté basée sur ce qui a été au fond sa grande idée de gestion dans le rapport aux hommes, c'est il faut qu'il y ait une règle, bien sûr, il faut qu'il y ait des choses instituées, qu'il y ait des institutions, mais en même temps il faut arriver à bâtir jour après jour une sorte de consentement. La règle et le consentement, je crois que c'est le titre d'ailleurs d'un de ses livres, où il compte par le menu son expérience de président de l'université de Nanterre dans les années 70. Et la règle et le consentement, c'est ça, Raymond. C'est il faut que chacun arrive à maîtriser les deux bouts de la chaîne, règle, consentement de l'autre. Et quelqu'un comme lui, que ce soit pour des travaux scientifiques, que ce soit pour des rapports personnels, que ce soit pour des rapports d'autorité institutionnelle, a constamment veillé à ce que, en chacun de nous tous, eh bien, les choses puissent circuler librement. Librement. Voilà. Et moi, j'ai toujours été très, très, très frappé par cela. Pas tous les autres historiens, d'ailleurs, mais en tout cas, moi, dans nos rapports personnels, qui ont été très longs, comme vous l'avez rappelé, et même plus longs que vous ne le disiez, puisque tout a commencé carrément en 1970, donc au moment où j'arrivais chargé de cours à Nanterre, puis après donc, j'ai fait 10 ans à Nanterre, à Paris 10, au moment où pour lui c'était tout à fait décisif de voir ce qu'il pouvait faire concrètement en gestionnaire de l'université à ressusciter ou à régénérer, et ensuite donc à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, comme vous le dites, dans les années 1980, et ensuite partout ailleurs où il a bien voulu que je l'accompagne, ici ou là. Donc, il y a plus de 30 ans de rapport suivi avec René Raymond, ce que je n'ai eu avec, évidemment, aucun autre historien. Alors, je réserve un peu ma réponse pour l'instant sur le plus positif et les...
Alors, éclairez-nous d'abord... Alors,
ce que je voulais dire, vous faisiez allusion à ce colloque-là où...
Les deux ou trois choses
très libres,
que vous n'avez pas...
Et un peu improvisé, puisque nous tenions tous à ce que ce soit fait très vite et qu'au moins nous soyons un peu bien dans nos têtes, comme on dit aujourd'hui, sur les questions que désormais mais René Raymond, disparu et toujours présent, ne va pas cesser de nous poser, n'est-ce pas ? Et nous allons continuer à ruminer tout ça, parce que c'est quand même un très grand exemple et un très grand secours que cet homme. Et là, c'était donc, une première esquisse, une première définition du questionnement qu'il faudra reprendre, bien sûr, cela va de soi. Alors moi, oui, j'y posais une ou deux questions. Les deux plus importantes, c'est pas tant, je dirais... le fait que ne se soit jamais défini au fond comme un intellectuel, ça c'est déjà une première question. En même temps, l'intitulé du colloque que nous citons, c'était intellectuel chrétien aussi. Moi, je suis très très perplexe sur tout ça. Donc sur sa situation d'historien de métier, mais de chrétien ô combien affirmé, sans être jamais très affiché, mais en tout cas très constamment revendiqué dans tous les sens du terme. Bon, moi je pense que c'était pas la très grosse question, même si elle m'a travaillé personnellement, en ce sens que moi, dans mon rapport à René Raymond, excusez-moi de dire ce jeu abominable, mais bon, moi, j'ai découvert René Raymond étudiant en histoire, en Cagne, puis à la Sorbonne. Nous sommes, mettons pour dire vite, en 1960, en pleine guerre d'Algérie, et à la Sorbonne, je trouve un historien chrétien qui n'est pas rien, qui s'appelle Henri René Maroux, qui, au même moment, sur l'usage de la torture en Algérie, nous apprend beaucoup de choses en nous apprenant au passage et en même temps de façon concomitante ce que c'est que Saint-Augustin à la fin de l'Empire romain et dans l'Afrique romaine. Bon. Et qu'est-ce que c'est que le rapport à la barbarie qui menace toujours, appelons ça la civilisation ou la foi, ou les deux ensemble. Bon, alors donc, moi, Raymond était, par rapport à Marou, évidemment, je le connaissais à peine en 1960, je ne l'ai pas connu du tout par les milieux chrétiens, mais plutôt par son, je dirais, son exercice du métier d'historien, et surtout, bien sûr, par la lecture qui était obligatoire déjà de son livre Surprise, son livre qu'on n'attendait pas, son livre qui, en 1960, donc, avait déjà 6 ans d'âge, qui était La droite en France, n'est-ce pas, paru chez Aubier, La droite en France de 1815 à nos jours. Pour nous, ça a été vraiment la révélation qu'il pouvait y avoir une véritable histoire politique.
On y reviendra, parce qu'effectivement, voilà, c'est un élément absolument essentiel.
Alors donc, d'un côté, moi, le jeune René Raymond, vers 1960, en pleine guerre d'Algérie, n'était pas Marou, ça c'est clair, n'est-ce pas, tout chrétien qu'il s'afficha, tout, etc. Et il n'était pas non plus un autre grand historien, mais alors lui est parfaitement laïque, si vous voulez, que j'ai connu au même moment, et qui, sur l'autre versant, c'était Pierre Vidal-Naquet, n'est-ce pas, qui lui, comme François Hartog vient de le dire là, dans un petit livre sur lui, était l'histoire en personne, finalement, l'espèce d'histoire dreyfusarde, hein, dressé, sans aucun, je dirais, quasiment sans aucun autre référent ni moral. C'est un Vidal qui intervenait sur l'affaire Audin, sur tout ce que l'on veut, sur le cours même de la guerre d'Algérie, en tant qu'historien, disons Dreyfusard, alors que Raymond n'intervenait pas, n'était donc ni Marou ni Vidal-Naquet.
Il était plutôt commentateur.
Voilà,
il était plutôt commentateur que intervenant directement.
Et il le restera jusqu'au bout. Ne pas savoir ce qu'ont été, je dirais, par exemple, les votes de René Raymond en termes politiques est un mystère qu'il entretenait très très soigneusement, n'est-ce pas, bien entendu.
C'est-à-dire que le paradoxe, juste pour abonder dans votre sens, le paradoxe, c'est qu'effectivement, il semble que dans les années 60-70, enfin, on est en pleine période d'ébullition idéologique, il y a beaucoup d'historiens ou beaucoup d'intellectuels qui prennent position sur tel et tel sujet, et que lui, semble-t-il, reste effectivement un peu sur son aventin historique, enfin d'historien, voilà, et semble un peu, fallot, je mets les guillemets, par rapport à d'autres intellectuels qui n'étaient pas, ou par rapport à d'autres historiens qui s'engagent plus. Oui. Mais c'est plutôt, donc dites-vous, cette figure-là qui vous séduit à ce moment-là?
C'est pas qu'il me séduit, c'est... Non, je veux dire que pour ma part, à titre d'étudiant, à titre de l'UNEF, pour d'autres raisons qui sont à la fois des engagements politiques de l'époque et des raisons d'engagement chrétien aussi, c'est plutôt le Raymond historien, le Raymond de la droite en France, je le répète, qui m'intéressait à l'époque. Bon. Alors, autrement dit, au point de départ, je pense qu'il faut quand même bien dire que René Raymond, quitte à discuter cette affirmation, René Raymond a été tout sauf ce qu'on appelait commodément, après-guerre ou jusque dans les années 60, un intellectuel engagé. Ça, je pense qu'il faut régler ça, c'est pas dans ses catégories, ce n'est pas ce qu'il souhaite, alors qu'on pourrait imaginer qu'après tout, Henri Marou est un intellectuel engagé. À tout point, c'est un engagement qui donne tel article dans Le Monde incendiaire, qui vaut des visites à domicile de la DST, etc., et qui vaut des inquiétudes de carrière ensuite tout à fait évidentes. Bien. Donc c'est pas ça, Raymond. Alors ensuite, donc, c'est de ce départ-là, j'ai connu ensuite d'autres facettes de René Raymond, bien sûr, mais ça m'a toujours laissé, c'était une des questions que j'avais un peu rentrées et sur laquelle il faut réfléchir et sur lesquelles je n'ai pas de réponse complète, c'est comment cet homme qui prenait tant de liberté finalement, qui n'avait rien d'un homme d'ordre, faut pas croire ça, et qui gardait cette espèce de juvénilité qu'on pourrait dire profondément chrétienne et profondément évangélique, pour dire vite. Bon. Cette espèce de qualité de provocation qu'il a toujours, je crois, puisé, et ça, il n'en parlait jamais, bien sûr, chez son ami le père Varillon, n'est-ce pas, qui...
Grande figure pour lui, oui.
Voilà, qui est grande figure pour lui, et dont le cœur, ce qui le liait, je pense, à Varillon... c'est l'humilité de Dieu, finalement. Est-ce qu'on serait tant aimé si ce Dieu-là n'était pas humble, finalement ? Dont tous les gens s'accordent à dire que c'est ça, là, l'espèce de grand acquis théologique du père Varillon. Bon. Ça, il était très sensible à ça. Alors, donc, ce n'est pas du tout un homme d'or. Mais en même temps, j'ai rarement vu un homme aussi respectueux de l'institution. Et pire, si je puis dire, parce que c'est tout à fait à l'écart de mon tempérament, pire de toute institution, quelle qu'elle soit. Et on avait un peu l'impression toujours que, au fond, c'était une institution d'ordre un peu pyramidal, parce que même en République, même en sécularisation complète des choses, il y a toujours une référence chez lui à l'institution suprême, qui est l'Église, finalement. Et Raymond, moi, m'a toujours étonné dans les discussions les plus épineuses ou les plus actives sur tel ou tel. Il y avait toujours cette idée que dès que ça participe éventuellement de quelque chose de pierre sur cette pierre, etc. Là ça résonnait vraiment. L'institution, je pense, est un des tests assez décisifs qu'on peut toujours tenter de mettre en avant pour comprendre René Raymond. Respect pour l'institution, là, c'était pas tous les jours facile à... Bon, mais il a l'idée que, au fond, l'institution, elle est toujours vivante et elle est toujours travaillée. Sa patte est toujours travaillée par quelque chose. Et c'est chez lui. Je pense que c'est l'Église. Il faut voir avec quel respect, constamment, au bout d'une discussion, il parlait avec respect d'un ecclésiastique, par exemple. Et il y a aussi quantité d'éléments familiaux, n'est-ce pas, qui jouent.
Le neveu
de Monseigneur Raymond. Voilà. Et ça a beaucoup marqué, je dirais aussi, dans sa vision de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'était une des premières questions. Moi, je ne suis pas sûr de l'avoir bien élucidée, ni réglée, ni débarbouillée. Mais je pense qu'il y a. Alors la deuxième, c'était. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours en référence à Marou pour moi. C'est la conception du temps chez René Raymond.
Si ça vous dérange pas, Jean-Pierre, on va faire une toute petite pause musicale parce que nos téléspectateurs ont besoin d'avoir ces plages musicales pour se reposer un tout petit peu. Et nous reprendrons donc tout de suite sur cette deuxième question, effectivement, sur cette conception du temps.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Donc Jean-Pierre Rioux, nous reprenons notre discussion sur effectivement René Raymond. Vous avez bien montré au début effectivement quels étaient les deux piliers, enfin l'équilibre que René Raymond cherchait entre la règle d'une part et le consentement. Et puis nous sommes arrivés à cette idée effectivement du respect de l'institution qui était très fort chez lui et qui sera évident ou qu'il mettra en pratique quand il deviendra président donc de Nanterre, où il devra faire preuve de diplomatie et de fermeté en même temps pour rétablir une situation que vous avez connu et qui était effectivement une situation un peu difficile. Et donc, vous étiez dans ces questions que vous n'aviez pas complètement posées ou complètement formulées avec lui, sur une deuxième question qui était celle, effectivement, de sa conception du temps. Alors, quelle était donc quelle était sa conception du temps ou comment est-ce que vous avez, vous perçu l'idée qu'il se faisait du temps ?
Là, il faut remonter, je pense, un peu en amont de la question. On terminera avec cette affaire du temps. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez René Raymond, y compris dans la vie quotidienne, j'ai fait avec lui à Nanterre, par exemple, en toutes les années 70, très souvent ce qu'on appelait le C2, qui était le séminaire des mémoires de maîtrise. Bon, je les ai fait tantôt avec lui, tantôt sans lui, parce qu'il avait toujours, évidemment, président, constamment des réunions, imprévues ou pas. Et donc, il arrivait à la porte à 6h05 en disant, écoutez, Jean-Pierre, je suis désolé, mais vraiment, la ministre m'attend, etc., ou le ministre m'attend, bon, etc. Très bien, donc je faisais le séminaire, mais enfin, je rendais compte, si je puis dire, et je suivais avec lui les étudiants. Ce qui m'a toujours très, très discrètement, et sans jamais vouloir approfondir les choses, après tout, nous avions des enseignements dits de méthodologie, n'est-ce pas, d'histoire à Nanterre, comment il s'affichait toujours, je dirais, très équitablement fidèle à des allégeances très distinctes, celle du métier d'historien d'un côté, celle de la sécularisation de la science historique de l'autre, et enfin la foi catholique sans mystère ni problème particulier.
Mais sans affichage non plus.
Plus, tout ça en stricte laïcité universitaire, si je puis dire. Bon, mais il affichait très tranquillement d'être équitablement fidèle à toutes ces allégeances-là. Bon, alors très bien. Autrement dit, c'est parce qu'il avait puissamment intégré. Alors c'est un acquis non à discuter. Et ça fait partie de l'immense apport de René Raymond au métier d'hystérien, c'est que jamais il n'a été, je dirais, un catholique ou un chrétien fidéiste. Hein. Constamment, il a toujours affiché que foi et raison allaient ensemble, etc., etc. Je ne vais pas faire la description de tout ça. Donc, il a vécu ce qui aurait pu être une double allégeance, la science historique d'un côté et la foi de l'autre. Il s'en est expliqué toujours et il a toujours pensé qu'il y avait un mot qui réglait tout ça et qui s'appelait intelligence. Bon, des choses, du monde, de l'être, de tout ce que l'on fait. Bien. Et il a même soutenu que son expérience d'église avait apporté à sa culture historique. Il a toujours eu le plus grand respect pour le devenir historique d'une institution fondée qui s'appelait l'Église. Bien. Et contre toutes les idéologies et contre tous les systèmes. Mmh. Hein. Bon, il y avait cette espèce de liberté créatrice formidable, pierre sur cette pierre. Voilà. Et là, après, on est à l'abri de toutes les mauvaises surprises d'ordre idéologique ou systémique. Bon. Alors, de tout cela, il avait, je pense, eu en tête une extrême définition très, très juvénile, je l'ai dit, de la liberté, bon, de l'historien, de la liberté de la personne, de la liberté tout court, de la liberté dans le rapport aux autres, etc., qu'on pourrait peut-être trouver. Alors, c'est pas du tout la liberté, je dirais, en termes républicains, démocratiques avancés, bien entendu, ni la liberté en termes d'intellectuels engagés. C'est liberté. Alors, moi, mon idée, c'est que il l'a puisé très jeune chez quelqu'un dont il n'a ensuite plus jamais parlé. De manière très étonnante. Vous-même n'en avez pas parlé tout à l'heure en citant ses ouvrages. Il faut savoir que le premier livre de René Raymond, un tout petit livre, hein, tout petit, est un livre sur Lamennais. Il sort en 1948, sortant de l'école normale, hein, tout juste, il sort un Lamennais et la démocratie au PUF, jamais renié, mais jamais revendiqué. Peu cité, jamais réédité, il est introuvable actuellement. À peu près, où il y a une espèce de description, comment dire, au fond de ce que Lamennais considérait comme le désastre initial de l'âge contemporain. Hein, l'idée qu'il y a oubli des vertus évangéliques, il y a compromission complète et constante avec le pouvoir ou les pouvoirs, il y a mépris pour le mouvement des idées, refus du mouvement des idées dans cette église-là, et indifférence à la question sociale. Bon, alors toute question. Alors, c'est très étrange, ça. Qui, finalement, sont restées, je dirais, très, très souterraines chez Raymond. Hein. Et je pense qu'on constamment nourrit sa présence au monde, sa présence au métier, sa présence aux autres, n'est-ce pas ? Les vertus évangéliques, comment ça fonctionne ? Hein, comment ça circule ? Faut-il ou non, et avec quelle force, dès qu'on croit à l'institution, composer ou non avec les pouvoirs ? Et là, sa réponse a été très variable. On peut respecter l'institution, mais on peut savoir dire zut à un ministre. Etc. Qu'est-ce que c'est que s'inscrire, consentir ou non à s'inscrire dans le mouvement, dans ce qu'on appelle très commodément en termes médiatiques et en termes de vie de l'intelligentsia de gauche, pourrait-on dire pléonastiquement, qu'est-ce que c'est que s'inscrire dans le mouvement des idées, hein. Et quatrième truc, c'est ça, c'est aussi, je l'ai amené, la question sociale. Face à laquelle il ne faut jamais être indifférent. Bon, voilà. Alors, voilà toutes ces questions. Alors, ces questions-là, qu'il a, je pense, trouvées à la fois chez Lamennais au moment où il était à la fois, je dirais, chrétien catholique engagé, l'Action catholique à plein régime, et jeune historien apprenant son métier et s'affichant déjà comme historien exceptionnel dans l'art d'inventer les sujets, ce qui donne donc en 1954 la droite en France. Tout ceci, alors c'est la question que je me pose et j'y viens, n'est pas inscrit dans une définition du temps, hein, peut-être aussi forte ou aussi angoissée qu'on pouvait le penser chez un historien chrétien. En tout cas, ça n'a rien de comparable avec Marou, par exemple. Ou Marot, évidemment, plus proche de Saint-Augustin, j'imagine, et connaissant plus intimement toute cette définition du temps de la mémoire et de la, et de la durée, si l'on peut dire, chez Augustin, évidemment, et beaucoup mieux, semble-t-il, de plein pied. Donc là, Raymond, comment est-ce qu'il se... se manifeste dans ce que Ricoeur appelle une herméneutique de la condition historique. Voilà. Et ça, chez Raymond, en l'état... moi, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Il faut peut-être lire, remettre en... Bon. Comment la continuité historique est-elle libératrice, au nom de quelle tradition ou pas? Est-ce qu'il va jusqu'à ériger le savoir historique un peu en sagesse? Est-ce qu'il reçoit ou non totalement l'idée que la philosophie hegélienne de l'histoire ou l'idée, je ne sais pas, de Foucault sur... bon, est-ce qu'il... comment tout ceci, il le vit? J'ai peu de textes en tête de lui sur ces questions. Peut-être en avez-vous, vous. Mais en tout cas, par exemple, je n'ai jamais lu, et nous n'en avons jamais parlé, d'affirmation de son rapport avec tout ce que a pu apporter Marcel Gaucher, par exemple, sur l'enchantement ou le désenchantement du monde, hein, à l'âge contemporain.
Alors, il y a un certain nombre de livres qui paraissent, donc qui reprennent un certain nombre d'interventions de René Raymond. Bayard vient de faire paraître les chroniques françaises.
Là, je ne l'ai pas consulté encore.
73-2007.
Et là, il y a les chroniques de la Croix, du Pèlerin, du groupe Bayard, oui.
Exactement. Et là, dans un entretien donc à la Croix du 13 mars 1982, donc sur ce rapport à l'histoire, il dit « Je crois profondément au poids du passé, au fait que ce passé s'inscrit dans la politique, l'infléchit et ne s'oublie pas. » Et il poursuit « En politique, l'histoire nous apprend que nous véhiculons un énorme passé. » Et il conclut en disant « Moins on a de pratiques historiques, plus on risque d'être possédé par l'héritage du passé et ses conflits. » Donc l'histoire est bien là, semble-t-il, pour nous libérer d'une façon d'un poids un peu inconscient, ou qui pourrait nous posséder si nous ne le maîtrisons pas.
Bien sûr, et là c'est à l'honneur de l'historien Raymond, mais ça c'est une réponse totalement sécularisée. On est dans un temps humain. Ce que je ne vois pas dans Raymond, qui par ailleurs, je ne vois pas assez, dans Raymond aujourd'hui, et la question prend une tonalité, moi, que je trouve très émouvante après sa mort, c'est, au fond, quelqu'un qui s'affiche à la fois si bon historien et si bon chrétien, pour dire les choses de manière un peu humoristique, qu'est-ce que je trouve chez lui sur le thème d'histoire et salut, la temporalité et la résurrection? Il fait une histoire dont on a un peu l'impression, qu'en dehors de ce que vous dites, mais qui reste parfaitement humain, sans présupposé théologique, ni même philosophique de l'histoire.
Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment...
J'exagère sans doute,
mais... Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, contrairement à Marot ou à d'autres, il était un peu gêné aux entournures quant à sa foi? C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on a l'impression qu'il a intégré le modèle républicain de la laïcité et que sa foi... ses convictions personnelles, religieuses, d'une certaine façon, le gêne un tout petit peu, je vais expliquer pourquoi, et qu'il le met un peu dans l'arrière-cuisine personnelle, et sujet sur lequel il s'est très 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 peu exprimé. Pourquoi ça le gêne un tout petit peu? Il dit qu'effectivement, dans l'historien et la foi, il dit qu'il est un intellectuel de profession, et que cet intellectuel de profession doit satisfaire aux exigences de sa discipline et adhérer de tout son être, ce qu'il fait par ailleurs, à la croyance d'une Église. Et il s'interroge en disant « Peut-on être simultanément et du même cœur, membre à part entière de la communauté scientifique et fidèle de l'Église catholique ?»
C'est la question de la double allégeance.
De la double allégeance. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que lui est, d'une certaine façon, un historien chrétien par ailleurs, qui n'a jamais mélangé les plans et donc n'a pas fait une théologie de l'histoire, comme l'a fait Marot, et a relégué cette question, effectivement, de sa foi personnelle dans un coin très privé, très secret, qui, certes, irriguait qui il était, mais n'avait pas d'influence, ou très peu, sur son travail d'historien.
Non, moi j'ai une réponse à votre question pour l'homme chrétien. En ce sens que, enfant ô combien brillant et discipliné de l'Action catholique, dans ces grandes expressions d'années 30 et 40, René Raymond pense que chacun de ses actes, fût-il le plus laïcisé et le plus sécularisé possible, atteste d'une vitalité chrétienne. Et que c'est par ces actes-là
qu'on peut présenter comme secret, comme battu, etc. Mais il y a une force démonstrative et probante de l'action humaine, tout emplie du Christ, finalement, et si emplie de lui qu'on n'a plus besoin de le nommer. En gros, on peut dire les choses de manière très, très misérable. Bon. Dans ce que j'ai l'impression, pour l'homme Raymond, quand il ouvre son carton d'archives, je suis persuadé que, ou quand, je ne sais quoi, il fait un cours, ou je ne sais quoi, et je pense que l'homme a tout ça. Bon. Pour l'historien, c'est plus compliqué, parce que effectivement, là, je n'ai pas de réponse assurée sur le rapport chez l'historien René Raymond entre, au fond, un temps laïcisé, celui l'historien toujours un peu, je sais pas, soit kantien, soit hegelien, soit tout ce qu'on veut, soit husserlien, soit foucauldien, soit tout ce qu'on veut, et le temps sacré. Le temps sacré, et c'est toujours quelque chose qui m'a... Et Raymond ne fait pas, à la différence de Marou, je le répète, ne fait pas soit de distinguo, ou je pense qu'il ne se pose pas, même pas la, pose pas la question. En même temps, c'est le secret des êtres. Et là, en tout cas, il tient absolument à ce que la séparation soit toujours bien, bien faite. Bon. Autrement dit, et cela dit, c'est quelque chose qui lui est probablement venu dans les dernières années. L'idée que cette espèce de la gestion de cette double allégeance au temps, mais quel temps, bon, il a, en plus, c'est un homme qui a beaucoup vu fonctionner les médias. Ce qui a aggravé, je dirais, l'hésitation qu'il pouvait avoir en lui, l'instantanéité du média. C'est pour ça qu'il avait une telle obstination à sans cesse rappeler sur l'histoire de telle circonscription électorale, comment ça s'était passé. Il fallait constamment, parce qu'il savait parfaitement qu'il y avait cette espèce d'écoulement, cet épuisement du temps, de la temporalité, tel que le monde contemporain et surtout les médiations actuelles l'imposent. Et là, c'est probablement aussi dans cette prise de conscience-là que finalement, dans les dernières années, je pense que là, l'idée tant des médias, tant laïcisée, tant sacrée, eh bien, tout ça avait peut-être chez le René Raymond des dernières années moins d'évidence que chez le jeune René Raymond, ce qui est tout à fait normal, bien sûr.
Je voudrais juste qu'on fasse une petite pause musicale pour nous permettre de nous distraire avec quelques musiques et oui. Nous reprendrons tout de suite après.
Il avait pour parrain le tsar Alexandre III et pour père le grand acteur Lucien Guitry. Sacha Guitry a conquis le public français sur scène et au grand écran. Canal Academy dédie une série d'émissions à Guitry, avec celui qu'il a connu personnellement, Alain Decaux, avec celui qui s'y réfère à toute occasion, Jean-Marie Rouart, avec celui qui admire son naturel, Félicien Marceau. Nous vous proposons de décrypter le cinéma de Sacha Guitry avec les commissaires de l'exposition de la Cinémathèque et d'analyser la figure de Napoléon dans ses œuvres. Canal Academy fête enfin Guitry et la comédie musicale Guitry et Yvonne Printemps. C'est sur Canal Academy en partenariat avec la Cinémathèque française.
Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser.
Donc reprenons donc notre entretien avec Jean-Pierre Rioux sur René Raymond et nous étions restés effectivement à cette difficulté de conciliation entre le temps historique court tel que lui-même l'a étudié et effectivement ce temps, disons, théologique, enfin qui aurait pu être le sien mais que vous ne retrouviez pas ou difficilement dans son œuvre. Alors, la question que je me posais était la suivante. Est-ce que, d'une certaine façon, contrairement à Marou, qui, lui, avait une perspective historique, c'est-à-dire qu'il a travaillé effectivement sur Saint-Augustin, donc sur le 4e siècle, sur le 5e siècle, donc il était dans la longue histoire. Est-ce que le fait que René Raymond s'est inscrit tout de suite, comme vous-même vous inscrivez, dans l'histoire contemporaine, et qu'il a beaucoup milité pour que cette histoire contemporaine, avec d'autres, du Rosel, Girardet, du Verger, Touchard, prennent toute sa place dans l'histoire, est-ce que cet apport essentiel de René Raymond n'est pas d'une certaine façon un des éléments de votre questionnement sur Absolument. Le temps, c'est-à-dire que vous avez son temps à lui est court, enfin, au sens le temps qu'il étudie est un temps court, contrairement effectivement à celui de Marot qui étudie la longue durée, voire la très longue durée.
Exactement, René Raymond, et là vous avez parfaitement raison, René Raymond est de ceux qui ont installé dans le travail des historiens et dans l'historiographie donc, l'étude de ce qu'il a appelé dans un article célèbre « plaidoyer pour une histoire délaissée ». C'est une histoire délaissée, l'histoire, au fond, l'histoire des trois ou quatre dernières décennies. Et donc, qu'il a lancé d'abord en faisant, par exemple, en contribuant beaucoup, par exemple, au début des études de presse un peu fines. Il avait fait, dans les années 60, par exemple, un petit livre de la collection Kiosque chez Armand Collin qui s'appelait « Les catholiques, le communisme et les crises », qui était là une bonne étude de presse, pointe à la ligne. Bon, toujours l'instantanéité des médias. Bon. Alors, l'histoire délaissée, c'est ça. Il ne parle pas de temporalité délaissée ou de durée des vertébrés ou de déconstruite. Jamais. Alors que Marot en aurait parlé. Sans doute. Il se trouve que sa carrière est aussi à cheval entre l'université classique, bien sûr, la Sorbonne, puis Paris, Nice, Nanterre et Sciences Po. Et la rue Saint-Guillaume, là, évidemment, il est de ceux qui mêlent les deux modes temporels, si je puis dire. Qui mêle l'histoire et la politique et qui mêle surtout le temps, la durée à la brodelle, pour dire vite, et ce qui s'appellera l'histoire délaissée, l'histoire immédiate, diront quelques excellents journalistes, et ce que finalement, au CNRS, on a appelé à un moment, au début des années 80, le temps présent. Bon. Avec bénédiction complète de René Raymond. Alors là, ça a été même de nos stimulantes oppositions, par exemple. Moi, j'ai quitté l'Institut d'histoire du temps présent à la fin des années 80, donc en 91 exactement, sur vraiment des difficultés de définition. En ce sens que le temps présent pour René Raymond et François Bénarida, c'était les dernières décennies, pointe à la ligne. C'était une histoire à 30 ans, quoi. C'était l'histoire où précisément on explique vous n'avez pas de recul, vos archives sont pas comme il faudrait, vous allez être noyé, vous ne savez pas quelles questions poser, où sont vos hypothèses de travail, etc. Bon, très bien. Objection légitime, mais très facile à lever. Hein. Moi et quelques autres, nous pensions aussi, parce que nous commencions à nous intéresser à toutes les questions touchant à la mémoire, nous pensions que le temps présent, c'est aussi le temps à l'œuvre dans le présent. Et là, la définition devenait un peu plus, peut-être un peu plus sophistiquée, avait moins d'efficacité, très certainement, parce que ça rendait les sujets, les travaux plus difficiles à définir et à découper. Il n'y avait plus, je dirais, d'arrêt chronologique des choses. Il n'y avait plus. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui n'était pas au cœur de la définition de René Raymond du temps présent. Ça, c'est évident. Tout simplement parce que je pense que en lui, et je ne dis pas tout au long de sa vie, son activité, il y avait quand même cette espèce de balancement pas trop réglé, non pas cette ambivalence, mais cette double allégeance bien vécue, magnifiquement exprimée dans ses travaux, mais entre, au fond, oui, le temps sacré, le temps sécularisé, la durée, et tout ça dans une définition de l'humanité et de son salut qui, à mon sens, même si ça existe au tréfonds de René Raymond, ce dont je n'ai rien à dire, n'est jamais exprimé.
Mais est-ce qu'on peut, pour nos auditeurs, bien mettre en évidence l'apport de René Raymond
Absolument.
En 57, 58, 59, 60, enfin à ce moment-là, pour mettre en place, contrairement à l'histoire académique,
Absolument.
Cette conscience et même ce travail dont vous avez été vous-même un pilier, de cette histoire contemporaine, de cette prise en compte de l'histoire révolue dans le présent, du présent comme élément historique. Enfin, voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont le changement, enfin, la révolution mentale enfin, qui s'est opérée à partir de ce moment-là avec lui et d'autres sur cette prise en compte de l'histoire contemporaine, histoire, comme vous l'avez rappelé, effectivement, qu'il considérait comme délaissée, et article donc de la Revue des sciences politiques, si je m'abuse, de 1957.
Alors, l'apport immense de René Raymond a été d'abord une affirmation de l'histoire contemporaine. une histoire contemporaine qui est de plus en plus proche de nous, et de plus en plus liée à, je dirais, nos interrogations. Bon, alors prenons sa première œuvre importante, et celle qui sera tout à fait éponyme de sa méthode et de son action, c'est 1954, La droite en France, bon, de 1815 à nos jours, où il définit trois droites, mais sous un singulier, n'est-ce pas ? Et sa définition des trois droites, bon, est devenue classique au moment précis où la droite française, concrètement, en 1954, renaît toujours, et tout juste, et très mauvais état de marche, de ses cendres de Vichy et de la Libération, bien, et de l'épuration et tout ce que l'on veut. Bon. Ça, c'est l'idée que un sujet d'histoire politique a toujours, d'une manière ou d'une autre, à voir avec le temps présent et avec le questionnement que le présent peut nous... Bon, il retrouve d'ailleurs, des réflexes de quelques autres très très grands historiens. Bon, c'est le présent n'est pas simplement le point d'aboutissement d'une durée, appelons-la brodélienne pour faire vite, mais le présent est toujours le temps grâce auquel on peut sans répit, sans relâche et avec toujours plus d'intelligence questionner utilement le passé.
Bon. Je fais une petite parenthèse sur ce livre, ô combien important. Donc ces trois droites, orléaniste, bonapartiste et légitimiste, lui ont valu une certaine animosité d'un certain nombre d'historiens, je pense à Sternel en particulier,
bien sûr,
qui lui considérait qu'il y avait effectivement dans cette droite la matrice d'un fascisme, d'un proto-fascisme qui allait se développer. Et donc, d'une certaine façon, René Raymond, lui, en définissant ces trois droites, et donc en n'incluant pas le fascisme comme étant une droite, et en ne voyant pas non plus ce fascisme ou ce proto-fascisme comme étant français, né de la... Voilà, c'est opposé donc à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voulaient stigmatiser cette droite française comme étant le ventre...
Absolument.
Et le ventre fécond,
on peut dire que
du fascisme.
Dans les trois droites de René Raymond, la droite légitimiste et la droite orléaniste, là tout va bien parce que c'est sans cesse rappliqué à quelque chose qui est le parlementarisme, et qui est le roi bien sûr, la charte, le parlementarisme et les moyens modernes d'expression des choses, l'élection, les parlementaires, les premières structurations partisanes des choses, de la vie politique, le droit de gauche en bon état de marche. La presse. Bon, très bien. C'est déjà, chez René Raymond, l'appréhension est déjà un peu plus complexe et plus précautionneuse pour tout ce qui touche au bonapartisme. Dans tout ce qui brouille le droit de gauche, René Raymond, par définition, peut-être vous me direz que c'est parce qu'il était peut-être plus centriste qu'il ne voulait l'avouer, tout ce qui trouble le droit de gauche institué, ça veut dire parlementaire, au XIXe siècle, largement aussi au XXe siècle, jusqu'en gros à De Gaulle, pour dire vite, là, il est plus hésitant, car il est quand même très difficile de, abruptement, mettre le Second Empire dans la droite, uniquement. Bon, et toute chose, tous les travaux, d'ailleurs, sur le Second Empire depuis, ou sur le bonapartisme du neveu, démontrent que, bon, dans la typologie de Raymond, de 1954, les choses sont pas si simples que ne le pensait René Raymond. Et il a si bien pensé que, quand même, la réédition et la refonte de La droite en France en 1982 est devenue Les droites en France. Il faut rendre cet hommage-là à René Raymond de savoir avancer avec la recherche, bien entendu, de savoir en tirer le meilleur et de faire des synthèse exceptionnelle d'équilibre. Il reprendra ça d'ailleurs dans un très beau livre qui a eu un immense succès chez les étudiants et chez les autres, qui est donc dès 88, son livre chez Fayard, Notre siècle, 1918-1988, où là, il donne un très beau panorama de tout ceci. Alors, son apport, c'est ça, c'est dire que le présent nous aide à questionner. Bon. Il y ajoute à la fois deux éléments nouveaux en méthode historique. Il apporte, un, les nouveautés de l'école française de sciences politiques, fille d'André Siegfried et de quelques autres, dont il pense, à si juste titre, que l'homme de la France de l'Ouest, si je puis dire, ou de l'Ardèche, est, pour comprendre l'évolution électorale et politique, partisane et politique de ce pays, important. Il faut en tenir, prendre acte et il faut essayer de manipuler tout cela avec nos outils, les outils de l'historien, et les choses, du coup, avanceront. D'autre part, il importe, parce qu'au même moment, il ne fait pas que de l'histoire politique, il se lance déjà dans, il anime aussi beaucoup d'instances sur l'histoire religieuse, et là, du coup, il importe le meilleur de la sociologie religieuse, telle qu'elle est si vivace, sortir des années 40 et dans les années 50, sur toutes les questions, notamment d'analyse et de l'institution Église dans ses mutations face à, disons, pour dire vite, la déchristianisation. Bon. Et là, donc, alors, avec sciences politiques et sociologie religieuse, il donne enfin, je dirais, il met deux tigres un peu nouveaux dans le moteur de cette histoire politique qui était jusque-là très méprisée, quasi moribonde, pas très illustrée, si je puis dire, par d'immenses historiens, à l'exception majeure de Pierre Renouvin, à mon sens. Et là, il apporte beaucoup. Il apporte aussi en histoire politique, en aidant à considérer quand même qu'il ne faut pas en rester à l'histoire des grands partis ou des grandes formations politiques. Il a toujours considéré qu'elles étaient tardives, et c'est un fait, 1901, la première formation politique qui s'appelle parti dans ce pays, que le Parlement, l'étude parlementaire était autrement importante, et qu'il fallait aussi surtout s'intéresser de très près à l'élection, n'est-ce pas, avec tout ce qui fonctionne autour de l'élection, n'est-ce pas, les amis d'eux, les comités électoraux,
comment
de canton à canton les choses, la sauce est liée, si je puis dire, pour présenter des candidats à telle élection, comment, avec quel réseau, quelle fidélité, quelles amitiés. Et là, c'est des choses qu'il a su bien poser, mais sans aller, en restant sur un plan, je dirais, strictement d'histoire politique. Ça veut dire aussi parlementaire et électoral, hein, très souvent, partisane, mais il nous a pas tous menés si loin que cela, finalement, dans l'étude, par exemple, de l'association. Moi longtemps, j'ai rêvé de tout cela. J'ai longtemps aussi voulu imaginer qu'on pouvait faire de manière plus cohérente que cela une histoire des ligues, par exemple. Qu'est-ce qui est l'associationnisme politique en dehors des partis? Ça a toujours été pour moi la grande question d'histoire politique. Et là, Raymond était intéressé, favorable, mais on sentait bien que ça n'était pas cardinal pour lui. Et nous retombons là, au début de notre conversation, c'est le respect de l'institution. Le respect de l'institution, et donc du parti politique. Moi, j'ai des souvenirs de Nanterre tout à fait extraordinaires. Au début des années 70, à ce séminaire du C2 dont je parlais tout à l'heure, nous avions en maîtrise quantité de propositions de mémoires de maîtrise très, très activistes, vous imaginez bien, en histoire politique du XXe siècle. Donc, et alors, je vous revois encore Raymond, très heureux d'entendre pour la 23e fois l'étudiant qui propose de faire l'histoire de tel groupe trotskiste, n'est-ce pas, 6 personnes à Levallois-Perret, n'est-ce pas, pendant quelques années. Là, il était très heureux, très content, parce que quelque chose, c'était toujours l'institution, si je puis dire, qui méritait d'être étudiée en elle-même. Alors, tout ce qui est un peu, bon, par exemple, le contraste est très clair entre un grand historien du XIXe siècle comme il l'a été, historien de l'opinion, historien des partis, historien de la médiation, et un autre grand de l'histoire contemporaine qui est Maurice Agulon. Raymond, tout petit camarade d'école normale qu'il était avec Maurice Agulon, avec des engagements politiques tout à fait différents, n'est jamais tombé en histoire politique dans ce que Agulon nous a apporté, et qui s'appelle, enfin, une vision, appelons-la, de sociabilité des choses, de la vie politique, et une vision plus, appelons-la, plus ethnographique ou plus ethnologique des choses que Maurice Agulon a. Bon, René Raymond n'a jamais écrit Une République au village, voilà. Donc là, voilà sa nouveauté en histoire politique.
Je voudrais juste qu'on termine sur un peu les évolutions ou les éléments d'évolution de René Raymond à partir, disons, de 2000. On a l'impression qu'à partir de ce moment-là, son intervention dans le débat se fait peut-être plus audible ou plus pressant,
tout à fait.
Et sur deux registres différents. Le premier, sur la question chrétienne, et là, il y a deux petits livres qui sont tout à fait passionnants et tout à fait significatifs de son évolution, qui sont en 2000, Le christianisme en accusation, et en 2005, Le nouvel antichristianisme, où il s'en prend, d'une certaine façon, sortant, entre guillemets, un tout petit peu peut-être de son rôle ou de sa neutralité telle qu'il l'avait envisagée jusqu'à présent, où il s'en prend à toutes les formes d'anti-christianisme qui pullulent dans la société et donc de reniement, d'une certaine façon, de la société telle qu'elle est. Et puis, deuxième type d'engagement, et je voudrais sur ces deux points que vous nous donniez votre éclairage, deuxième type d'engagement sur le débat historique, et c'est en 2006, quand l'État se mêle de l'histoire, la querelle des historiens, où il plaide. Et là, on rejoint ce que vous disiez sur la mémoire, peut-être qu'il avait mal perçu, ou le rôle de la mémoire qu'il avait peut-être mal perçu 10 ans avant, où il plaide pour l'autonomie de l'histoire et où il dit qu'il importe effectivement que l'historien reprenne son plein rôle dans le débat historique. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans les 7-8 années de sa vie, enfin de la fin de sa vie, sa réconciliation, enfin une certaine forme de réconciliation s'est opérée, où il est sorti un tout petit peu de sa neutralité au profit de ce double plaidoyer, un, pour la prise en compte du christianisme et donc, par opposition à tous ceux qui considéraient qu'il fallait effectivement faire tabula rasa et mettre le christianisme en dehors, d'une certaine façon, de l'histoire. Enfin, voilà. Et deuxièmement, cette intervention dans le débat historique où il plaide pour la revitalisation du rôle de l'histoire quand celle-ci semble débordée par la mémoire.
Alors, comme toujours chez René Raymond, cette question, l'affirmation dénigrement du christianisme dans une société comme la nôtre aujourd'hui, elle vient par deux biais. L'affaire n'est pas abordée immédiatement de front. Bon. Même si ça donne deux petits livres incisifs qui en ont étonné plus d'un, c'est vrai. Ça vient de deux éléments. Un, tout récent, puis les 5 ou 6 dernières années. Un, la laïcité. Où là, sa participation à la commission Stasi, très active. En parallèle, ses contributions dès longtemps à l'Assemblée de l'Épiscopat français, bien sûr, sur toutes ces questions-là, l'ont entretenu dans une grande interrogation des dernières années. Hein, en ce sens que la laïcité à la française, issue de la loi de 1905, mais avec toutes les difficultés que l'on sait les apports que l'on sait, et là, René Raymond est un catholique qui jamais, au grand jamais, ne reviendra sur ce principe-là et sur son utilité dans un pays comme le nôtre, très bien. Mais en même temps, constamment, il avait assez étudié l'anticléricalisme pour savoir cela de très près, sans jamais consentir à dire, et brusquement ça lui arrive, là je dirais, dans les auditions, notamment de la commission Stasi, l'idée que dans le respect actuel, tel qu'il est formulé actuellement de la laïcité à la française, il y a oubli, et c'est ça le désenchantement du monde, et c'est ça qu'il travaille, il y a oubli complet, et des myriades de gens qui n'admettent pas que la religion, en tant que telle, puisse demander à avoir une lisibilité et une présence sociale, pour employer des mots très banals. Bon. Et ça, il voit à ce moment-là que c'est une faille dans la définition de la laïcité à la française, cet enfermement individuel et individualiste même, peut-être, au moment où la famille, le mariage, etc. aussi sont un peu en capilotade. Là, cet enfermement-là, sous les applaudissements et les hurrahs de l'ensemble du monde laïque, ou laïcisé, lui pose vraiment question. Et jusqu'au bout, il est resté là très, très attentif à l'idée que comment faire dans le cadre hérité de la loi de 1905, comment faire pour que nous puissions admettre que la religion et les religions, bien sûr, puissent se manifester dans l'espace public d'une manière inventée peut-être, mais d'une manière absolument indispensable. Et au fond, si on veut sauver ce monde, je crois qu'il y a ça.
C'est peut-être ces retrouvailles avec l'amener.
Exactement, exactement. Comme quoi, il faut pousser à la réédition de ce petit livre introuvable de René Raymond. Bien, ça, c'est le premier élément. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu. Deuxième élément, c'est l'affaire de l'Europe. Bon, c'est l'affaire des racines chrétiennes de l'Europe, qui le travaillait tant que... Moi, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un René Raymond éructant au référendum de 2005, n'est-ce pas ? parce que je le vois encore arrivant à je ne sais quelle réunion, en hurlant quasiment, ce que je n'avais jamais vu, c'est Munich, n'est-ce pas ? Bon, le nom référendum, pour lui, il l'a vécu comme un Munich. Bon. Alors, donc c'est l'affaire des racines chrétiennes de l'Europe, où là, il a compris, il a vu beaucoup de choses sur, au fond, c'est tout ce qu'on dissimule derrière les valeurs les plus admises et dont on ne veut absolument pas admettre qu'elles sont à la source chrétienne. Il y a là une espèce de fausseté, il y a une espèce de ruse de l'histoire, de la laïcité qui ne convient plus et qui ne n'aide plus à comprendre et cette société et à agir sur elle et avec elle. Et là, il était assez effectivement... Alors, je maintiens donc que c'est par la laïcité peut-être et par l'Europe qu'il est arrivé à cette capacité de protestation effectivement assez nouvelle chez lui et qui nous a tous beaucoup, peut-être pas appris à tous, mais qui nous a tous à tout coup toujours beaucoup émus parce que ça faisait partie de l'incroyable vitalité, de l'incroyable optimisme de cet homme.
Et puis, dernier sujet, enfin, c'est sur lequel il est intervenu aussi publiquement, c'est sur cette question.
Alors, oui, l'autonomie, pardon, j'oubliais.
Non, de l'histoire, enfin, voilà.
L'autonomie de l'histoire.
Voilà, par rapport à la mémoire.
Pour un homme d'institution comme lui, c'était assez raide, visiblement. Donc là, il n'a pas hésité. Et sans peut-être aller jusqu'au bout de la réflexion, mais ça, c'est une opinion personnelle. Pour ma part, moi, je ne l'ai pas suivi dans le rejet de toutes les lois mémorielles. Je n'ai jamais admis qu'on puisse demander totalement l'abolition de la loi Guesso, par exemple, dès lors qu'elle qualifie le négationnisme, le révisionnisme, puis négationnisme en des termes tout à fait utilement rapportés à la propagation de l'antisémitisme, ce qui est une toute autre question qu'une loi mémorielle, n'est-ce pas ? Et là, il a été effectivement très attaché à cette question et il a très, très vaillamment combattu. Et c'est vrai, sur un ton et avec une verdeur tout à fait exceptionnelle.
Jean-Pierre, merci beaucoup donc de cet entretien qui nous a permis effectivement de brosser un peu le portrait, trop rapidement bien évidemment, de René Raymond. Je signale qu'effectivement il y a un certain nombre de livres qui paraissent en ce moment et qui reprennent un certain nombre de ces interventions, parce que n'oublions pas que René Raymond est un homme multimédia, enfin qu'il savait à la fois être un enseignant, à la fois un chercheur, mais aussi participer au débat public et aux commentaires dans les médias. Donc, je renvoie tous nos auditeurs à tous les livres de René Raymond, et en particulier, pour rentrer peut-être par la fin dans son œuvre, par ses petits livres de réaction.
Très accessibles et très, très utiles.
Très accessibles et qui sont moins universitaires et donc qui, d'une certaine façon, permettent sans doute de le réconcilier avec lui-même, enfin avec le Lamennais dont vous...
Oui, et puis il est mort peut-être en intellectuel engagé, finalement.
Voilà, exactement, qu'il n'a peut-être jamais voulu être et qu'il a fini par devenir, considérant sans doute que le paysage avait complètement changé. Donc Jean-Pierre Guillou, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous et donc sans doute, peut-être un jour prochain, nous nous reverrons pour commenter vos propres livres et ce dictionnaire donc de la France coloniale tel que vous l'avez dirigé récemment.
Merci beaucoup à vous.
C'est moi.